Géopolitique.
Corinne Manjou.
La crise syrienne n'en finit pas de s'enliser et menace de s'étendre à d'autres pays de la région. Pendant ce temps, la communauté internationale parle beaucoup, mais se montre incapable d'agir face à un pouvoir qui se radicalise et des insurgés déterminés. Les derniers observateurs des Nations Unies ont quitté le pays à la fin de leur mandat, qui n'est pas renouvelé pour raison de sécurité. Kofi Annan, le premier représentant de l'ONU, a rendu son tablier sur un échec. Son successeur, Lakhdar Brahimi, représentant spécial conjoint de l'ONU et de la Ligue arabe, se dit effrayé par sa mission. Au siège de l'ONU à New York, l'on évoque ouvertement le risque d'extension du conflit syrien, notamment au Liban voisin, alors même que le Conseil de sécurité est paralysé par le veto russo-chinois. Alors, quels sont les enjeux réels du conflit en Syrie? Quel rôle jouent les religions dans cette crise? Quelle est la véritable mission de Lakhdar Brahimi? Y a-t-il un calendrier secret en Syrie? Deux invités pour en débattre, Xavier Guillou, expert en gestion des risques et pilotage des crises, spécialiste du Moyen et du Proche-Orient, auteur de nombreux articles sur la question, disponibles sur le site de DiploWeb ou sur son site personnel, xavierguillou.com. Bonjour Monsieur Guillou.
Bonjour.
Je précise que vous êtes au téléphone de Bretagne. Notre deuxième invité, Alain Chouet, est un ancien chef de service du renseignement et de la sécurité de la DGSE, auteur de nombreux ouvrages sur l'islam et le terrorisme, et il a notamment travaillé à Damas et à Beyrouth. Alain Chouet est au téléphone de Nîmes. Bonjour, Monsieur Chouet.
Bonjour.
Alors, la crise syrienne offre une multitude de lectures. Hein, et d'abord, en ce qui concerne les enjeux, quels sont les enjeux réels, ou plutôt la palette des enjeux de cette guerre civile en Syrie, à votre avis? Qui veut commencer? Alain Chouet?
Oui, les enjeux de la guerre civile, parce que c'est une guerre civile en Syrie, et c'est une guerre civile qui ne date pas des affrontements de l'année dernière, mais qui date, qu'on peut faire remonter aux années 80, quand un certain nombre de salafistes à l'époque avaient assassiné des élèves officiers à la WIT, et les incidents communautaires dans ce pays n'ont jamais cessé depuis les années 80, même si le régime a tout fait pour les dissimuler. Les enjeux sont dans la suite logique des autres printemps arabes et visent, je pense, à renforcer l'influence et la légitimité des pétromonarchies dans la région et donc les intérêts de l'Occident dans la région.
Xavier Guillou.
Oui, je pense que, bon, d'abord, c'est une crise qui est complexe, hein, parce qu'on est quand même sur un verrou historique, géographique, et je rejoins le propos d'Alain Chouet, c'est cette guerre civile, on la connaît sur le terrain, déjà, elle était larvée, mais elle s'est développée depuis les années 80. Je pense que les enjeux pétroliers sont considérables, parce qu'on a, c'est pas forcément connu du grand public, mais on a un déplacement du centre de gravité de la sécurité énergétique pour l'Occident, mais aussi surtout pour la Chine, le Japon, surtout après Fukushima, qui remonte de la péninsule arabique vers le nord du proche Moyen-Orient, avec tout ce qui se passe du côté, à la fois de l'Iran, mais de Mossoul, du nord de l'Irak, du Caucase, de la mer Caspienne, Kazakhstan, Turkménistan, enfin. Là, on a tout un ensemble de logiques pétrolières et gazières qui sont en train de se mettre en place et qui, préfigurent un petit peu la sécurité énergétique que l'on va avoir à gérer dans les 30 prochaines années, quoi, voilà.
Mais il y a également des enjeux de guerre froide. On a comme l'impression d'une reconstitution de la guerre froide dans la région.
Oui, on peut avoir plein de scénarios. On peut avoir plein de scénarios. On peut avoir une vision de type retour d'une guerre froide entre États-Unis et Chine, mais ce serait ignorer la présence quand même des Russes dans le paysage. Et ce serait aussi prendre les Turcs et les Iraniens. Enfin. Comme étant des acteurs de second niveau, quoi.
Ce qui n'est pas le cas ici.
Je crois qu'on assiste plutôt à des. Je pense qu'il faut être très humble vis-à-vis du sujet parce que c'est un contexte quand même très complexe. Et vous avez, certes, les Américains et les pétromonarchies, voire un certain nombre d'alliés de l'Occident qui ont tout intérêt à ce que les statu quo qu'on a installés depuis un siècle derrière les accords Sykes-Picot en 1920 puis derrière l'accord de Quincy qui a été signé par Roosevelt et les Saoud après la Seconde Guerre mondiale contiennent toujours, ce leadership sur ce grand Moyen-Orient pour avoir un contrôle de la sécurité énergétique. Maintenant, on a avec la montée en puissance de la Turquie, le retour un petit peu sur la scène de l'Iran qui redevient un empire central, hein, important, Et puis le jeu qui est quand même le jeu des Russes, enfin Vladimir Poutine n'est quand même pas un interlocuteur de second niveau. On a là trois vieux empires qui se rappellent à nous en termes historiques et qui veulent jouer un rôle de premier niveau sur cette région. Et je dirais que l'affaire syrienne est presque un prétexte pour les uns et les autres pour se repositionner dans le tour de table et puis essayer d'inventer un nouveau jeu, quoi.
Alain Chouet.
Oui, non, moi je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Il n'y a pas de, moi je vois pas d'élément de guerre froide dans cette affaire. Il y a effectivement la réapparition sur la scène internationale de la Turquie, parce qu'à partir du moment où l'Europe lui a claqué la porte au nez, elle est bien obligée de se tourner d'un autre côté, et notamment de ses voisins de l'Est et du Sud. On a la problématique iranienne, qui est un pays énorme, aux potentialités énormes, et qui est actuellement ostracisé par la communauté internationale, mais qui veut survivre et qui veut être présent sur les dossiers. Voilà, on a des acteurs régionaux, c'est beaucoup plus une crise régionale qu'une crise internationale. Elle traduit aussi, évidemment, la collusion que Guillou évoquait suite au pacte du Quincy et aux accords Sykes-Picot entre les Occidentaux et un certain nombre de monarchies arabes qui sont pas du tout démocratiques, mais qui conviennent parfaitement à nos intérêts et qui sont favorables à des régimes conservateurs, réactionnaires, hein, islamistes en gros, qui assureront en gros la paix civile dans le coin et qui sont favorables au modèle libéral international. On est plus dans une crise, je dirais, économique que politique.
Et quel rôle joue la religion dans cette crise, dans cette guerre civile en Syrie ?
Je ne crois pas que ce soit une question.
Enfin, Alain Chouet.
Il y a une question, c'est une question communautaire avant d'être une question de religion. En Syrie, contrairement aux autres pays du printemps arabe où il y avait des sociétés relativement homogènes, sauf en Égypte, mais on a bien vu comment ça se passait mal pour les Coptes. En Syrie, il y a une diversité communautaire qui est importante. Près de 30% de la population syrienne n'est pas musulmane sunnite, et en particulier, il y a une composante communautaire importante qui est celle des Alaouites, qui a pris le pouvoir en 1970 et qui est l'objet d'une fatwa du fondateur du wahhabisme, Ibn Taymiyyah. Donc le père religieux du Qatar et de l'Arabie Saoudite, qui prescrit le génocide des Alaouites. Alors évidemment, ça fournit un substrat idéologique et un substrat religieux à un affrontement qui en fait est un affrontement politique et civil, mais qui est grave parce que les Alaouites sont pas du tout décidés à se faire massacrer. Ils ont été opprimés pendant 1000 ans, ils n'ont pas du tout l'intention de revenir à un statut d'oppression, et les autres minorités locales, les chrétiens, les druzes, les chiites, les ismaéliens, ont tendance à faire, et même les Kurdes qui sont sunnites mais pas arabes, ont tendance à faire corps avec les Alaouites parce qu'ils veulent pas se voir imposer, comme ça a été, c'est fait en Tunisie, comme c'est fait en Égypte, comme c'est fait au Yémen, une espèce de démocrature, hein, de dictature des frères musulmans.
Xavier Guillou.
Oui, je crois que, enfin, je partage l'analyse d'Anna Choué. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul vis-à-vis de cette problématique-là, parce que un certain nombre d'acteurs ont tout intérêt à, je dirais, à diaboliser ou à instrumentaliser la question religieuse. Parce que bon, c'est plus facile, si vous voulez, par derrière, d'engager des scénarios beaucoup plus militarisés ou que des scénarios, je dirais, soft. En l'occurrence, sur cette région de la Syrie, quand vous regardez l'histoire, on a toujours eu un mélange de communautaire extrêmement fort. Enfin, tout le monde est passé par la Syrie, hein, les Phéniciens, les Perses, les Grecs, les Arméniens, les Romains, les Ottomans. Bon. Donc, je veux dire, on est dans une espèce de creuset intercommunautaire, interreligieux, etc., où l'ensemble des populations ont l'habitude de vivre ensemble. Quand vous prenez toute cette histoire du Levant, la Syrie est peut-être un des modèles, je dirais, de coexistence des communautés. Et chaque fois qu'on a voulu instrumentaliser le religieux sur cette région, ça a toujours été une catastrophe. Ça s'est toujours traduit par des massacres et par des rapports de force où les communautés se sont défendues. Hein. Et là, en l'occurrence, vous prenez les Alaouites. Les Alaouites, si on les stigmatise comme ça se passe aujourd'hui, eh bien, ils iront jusqu'au bout du raisonnement pour se protéger. Et comme derrière, vous avez toutes les communautés chrétiennes, les Assyriens, Syriaques, les Chaldéens, les Maronites, mais aussi les chrétiens romains, les protestants qui sont sur place, etc. Voire les Arméniens, tout le monde va faire bloc avec les Alaouites pour des questions de survivance. Hein. Je crois qu'il faut faire très attention à la problématique religieuse parce que puissances extérieures cherchent à l'instrumentaliser. Hein. Pour, par exemple, les wahhabites, c'est la question qu'il faut mettre en avant en permanence, le tout relayé par, je dirais, des milieux néoconservateurs américains qui voient dans cette guerre civile une racine religieuse. Et sous ce prétexte-là, on peut faire n'importe quoi, quoi. Je veux dire, on peut partir dans n'importe quelle dérive.
Alors, il y a aussi diverses armes de destruction massive qui sont utilisées ici. D'abord, il y a une menace de l'arme nucléaire. Il y a également les armes chimiques. Quelle lecture faites-vous de ces nouvelles armes ?
Non, là, faut être sérieux. Hein. Il n'y a pas d'armes de destruction massive.
Y a pas de...
Je ne vois pas où est la menace nucléaire.
Oui.
Ah oui, mais enfin, les Chinois aussi ont l'arme nucléaire. Personne pour l'instant n'a parlé d'utiliser l'arme nucléaire dans cette affaire. Je ne vois pas très bien à quoi ça servira en plus. Quant aux armes chimiques, les Occidentaux ont fait une espèce de crise nerveuse à ce sujet, alors que la Syrie avait justement publié un communiqué pour dire ben oui, on en a, mais on en a comme tout le monde, et nous nous engageons à ne pas l'utiliser contre nos populations, nous l'utiliserons qu'en cas d'intervention militaire extérieure, et encore, c'est pas sûr, ça relève pour moi beaucoup de la gesticulation, donc il faudrait peut-être quand même pas faire une crise nerveuse sur cette affaire qui ressort beaucoup plus du discours que de la réalité.
Et Xavier Guillou ?
Oui, je pense que faut faire très attention. On est dans une période, je dirais, où la diplomatie est un peu hystérique. Hein. Faut voir qu'on est quand même là. Il y a eu une réunion du Conseil de sécurité avec les Chinois et les Russes qui sont pas venus à la réunion. Le couple franco-britannique qui était très offensif s'est retrouvé un petit peu démuni. On a quand même le 16e sommet de la réunion des pays du non-alignés à Téhéran avec des déclarations assez fracassantes de Morsi à la tribune, même de Buchanan à la tribune à Téhéran. Enfin bon, donc on est dans un champ de bataille médiatique où on est plus dans la propagande que dans l'information.
Et de ce point de vue, la désinformation peut être considérée comme une arme de destruction aussi.
Et même l'utilisation de ce genre d'éléments, quoi. Si jamais il y a des armes chimiques, vous verrez, on va à ce moment-là, on prendra toutes les mesures. J'ai écouté par exemple Monsieur Fabius ce matin qui disait, suite à la réunion, si jamais il y a utilisation des armes chimiques, à ce moment-là, on se passera de toute décision du Conseil de sécurité, comme si c'était un prétexte, si vous voulez, pour pouvoir vraiment engager des opérations militaires. Tout le monde se cherche, en ce moment, tout le monde cherche une issue pour sa posture. Et donc là, comme on voit que la vieille planification qu'on a connue sur les Balkans, puis qu'on a connue sur d'autres pays, etc., du couloir humanitaire, enfin, ou de la zone tampon, ou des cercles de sécurité, etc., ne fonctionne pas, ne pas fonctionner, parce que ça peut pas se faire sans un minimum de couverture aérienne et de sécurité sur le plan militaire, eh bien, on essaye de trouver d'autres prétextes, donc l'histoire des armes chimiques, l'histoire de la menace nucléaire.
Avec l'Iran, la menace nucléaire avec l'allié iranien,
avec l'Iran,
notamment.
Oui, tout à fait. Mais Khamenei, enfin le guide suprême iranien, a bien précisé dans la réunion hier que si l'Iran voulait en effet l'énergie nucléaire, parce que là on a besoin compte tenu de sa démographie, faut quand même pas oublier que l'Iran, comme la Turquie, sont des grands bassins démographiques dans ce Proche-Orient, et qu'il n'avait pas l'intention pour l'instant d'aller sur le champ de l'arme nucléaire. Mais tout le monde montre du doigt à l'Iran comme étant déjà détenteur de l'arme nucléaire. Donc,
ce qui n'est pas prouvé encore, hein, il faut bien le dire.
Ce qui n'est pas le cas, et l'Iran l'utiliserait contre qui ?
Oui.
dans le contexte de la crise syrienne, contre qui l'Iran, même s'il le voulait, utiliserait son armement nucléaire ?
Alors, Alain Chouet, vous connaissez très bien la région, Xavier Guillou aussi, vous êtes experts, tous les deux experts de cette région. Est-ce que vous comprenez cette désinformation, entre guillemets, ou cette gesticulation dont parlait Xavier Guillou tout à l'heure, de certains responsables politiques occidentaux par rapport à cette crise, par rapport à ce qui se passe réellement et à la compréhension qu'il faut avoir de cette guerre civile en Syrie?
Moi, personnellement, je la comprends mal. Oui, je la comprends mal. j'ai quand même fréquenté pendant 35 ans les allées du pouvoir et je comprends mal la gesticulation actuelle. Hein, alors s'il est pour des raisons humanitaires et si on supporte pas les dictateurs, on les a supportés pendant 40 ans. Alors d'un seul coup on se réveille, je sais pas trop pourquoi. D'autre part, je pense qu'il y a quand même, dans l'attitude de nos politiques qui sont très suivistes maintenant vis-à-vis des médias, il y a une énorme influence des médias. Moi, j'accuse pas les journalistes, c'est pas eux qui font la politique, mais ils y contribuent par le mainstream, par le courant principal qui les anime. Et je constate qu'en ce qui concerne la Syrie, on a affaire à un régime brutal, autoritaire, fermé, qui ne sait pas communiquer, que la seule communication qui se fait sur cette crise, elle est le fait de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est la source unique maintenant des médias occidentaux en particulier. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, ça sonne bien aux oreilles, mais ça n'a rien à voir avec la Ligue internationale des droits de l'homme. C'est un bureau de quelques personnes qui sont des militants de l'Association des Frères musulmans et dont certains ont été condamnés dans le passé pour violence politique. Or, c'est devenu la seule et unique source d'information des médias occidentaux. Alors, je dis pas que ce qu'ils disent est faux, mais je m'étonne quand même un peu que...
C'est orienté.
Je ne sais pas si c'est faux et orienté. Ce qui me surprend de la part de journalistes professionnels, c'est de ne se reposer que sur une seule source d'information et d'en faire leur unique source de jugement sur une question. Alors évidemment, ensuite, les politiques y suivent. Hein, ils suivent parce qu'ils n'ont pas envie d'être en décalage et en déphasage avec ce qu'ils croient être une opinion publique.
Xavier Guillou.
Oui, là-dessus, je pense qu'il y a... Alors, je rejoins tout à fait Alain Chouet sur l'histoire de SH, qui aujourd'hui est quasiment la seule source d'information qui est évoquée sur toutes les chaînes de radio ou de télévision françaises. Bon, faut voir que Riyad El-Maled, qui est le patron de cette officine, est un ancien officier à Coventry, que tout ça a été monté et financé par les frères musulmans. Enfin, c'est bien connu, enfin, on connaît tout le parcours de l'ODSH depuis plusieurs années, donc c'est tracé. Et bon, tout le monde est accroché à cette source d'information. Alors, je dirais que cette question des sources d'information est vraiment très, très spécifique à la France. Parce que quand on voyage beaucoup et qu'on se promène sur d'autres régions, les journalistes ou les rédacteurs en chef des vecteurs médiatiques qu'on peut écouter sont beaucoup plus prudents et posent aujourd'hui la question de l'objectivité des évaluations qui sont faites sur le terrain. Ça commence à émerger. Beaucoup se disent, bon, peut-être qu'il faudrait qu'on regarde un petit peu les chiffrages qui sont faits ou les éléments d'information qui nous sont donnés avec un peu plus d'esprit critique et de sens de la contradiction sur le terrain. Donc il y a beaucoup d'émissions maintenant qui se font ou de reportages qui se font avec des journalistes qui vont sur le terrain et qui vont voir ce qui se passe à Alep, ce qui se passe à Homs, à Damas, etc. et qui reviennent avec des analyses un peu plus élaborées. Maintenant, sur les rouages de la vie politique, bon, on commence depuis 15 ans à avoir l'habitude de voir un petit peu, pas nos diplomates ou nos militaires, parce qu'ils sont quand même professionnels, mais les cabinets des ministères des Affaires étrangères ou de certains milieux politiques être l'objet de jeux de lobby qu'il faut prendre en considération. Enfin, je veux dire, quand vous voyez par exemple Bernard-Henri Lévy remplacer le ministre des Affaires étrangères sur l'affaire libyenne, on l'avait déjà vu sur les Balkans, maintenant on le revoit arriver là sur
la Syrie,
sur l'affaire syrienne.
Mais avec moins de bonheur.
Oui, enfin avec moins de bonheur, mais enfin, il fait pression sur nos politiques pour que nos politiques repartent dans le même type de processus qu'en Libye, où on irait faire une intervention militaire sous prétexte de protéger les populations et avec un objectif à la fin qui est de changer de régime. C'est tout le problème de la déviation qu'on a connue sur la résolution de 1973 pour la Libye et qui aujourd'hui a été très mal vécu par la Chine et par la Russie. Et les Russes et les Chinois disent, vous ne recommencerez pas une deuxième fois ce type d'exercice. Hein, parce que là, il y a une instrumentalisation du droit international sur laquelle nous, on n'est pas d'accord.
Voilà, c'est la fin de la première partie de l'émission. Nous reviendrons. Alors, géopolitique, le débat sur la situation en Syrie. Nous retrouvons nos invités Alain Chouet et Xavier Guillou après le rappel de l'actualité.